Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur !
Les animaux et les plantes semblent souvent accomplir des prouesses. Parler de stratégie, de mémoire, de défense ou d'association n'est pas surfait. Pour cette nouvelle série d'été, j'ai envie de vous faire découvrir le génie du monde qui nous entoure. C'est ce que j'ai appelé, de manière peut-être un peu caricaturale, l'intelligence du vivant. Il sera question des arbres et des plantes, des oiseaux, des poulpes et des mammifères, des microbes et des virus, entre autres. Et on commence aujourd'hui avec les champignons. Les champignons sont partout, dans la terre, les océans et les déserts. Ils vivent d'incroyables épopées sous nos pieds. Ils ont beaucoup de pouvoir, et en particulier celui de la vie. Car sans eux, nous ne sommes rien. Marc-André Sellos est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est auteur, entre autres, de « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » paru chez Actes Sud. Et il propose un voyage sous terre, dans le monde invisible des bactéries et des champignons. Les champignons sont les rois de la vie associative et des couples qui durent, les véritables héros du royaume du vivant. Vous croyez bien connaître le monde des champignons, vous allez découvrir un univers insoupçonné, plus proche du monde animal que du monde végétal.
Les aventuriers sur France Inter.
Un champignon, c'est ni un végétal ni un animal. Effectivement, c'est vrai que c'est immobile comme les végétaux, mais d'un autre côté, tout comme les animaux, c'est incapable de faire sa propre matière organique, ça n'a pas de photosynthèse, donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est un autre groupe du monde vivant, mais par contre, d'un point de vue évolutif, c'est assez proche des animaux, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun il y a un bon milliard d'années quand même, et donc ce sont nos plus proches parents à nous animaux dans l'évolution.
Donc c'est vrai que le champignon est plus proche des hommes que de l'herbe, par exemple ?
Absolument, absolument. Alors, cela dit, évidemment, pendant ce milliard d'années d'évolution qui s'est passé depuis l'ancêtre commun, nous, les animaux, et notamment l'homme, sommes devenus très très différents de ce que sont les champignons, et il n'y a plus vraiment de ressemblance. Un détail près, c'est que beaucoup des fongicides, beaucoup des molécules qu'on utilise pour tuer les champignons sont dangereux pour l'homme aussi. Et c'est beaucoup plus difficile de lutter contre les champignons que contre les bactéries parce qu'ils nous ressemblent beaucoup plus. Donc ce qui les affecte est aussi plus susceptible de nous affecter.
Ce qu'il y a de passionnant dans le monde des champignons, c'est qu'il y a champignons et champignons. Il y a ceux qu'on voit quand on marche en forêt, qu'on va cueillir parfois, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne voit pas.
Ah mais oui, mais oui. Mais de toute façon, le champignon, vous ne le voyez pas. Ce qu'on voit en forêt, ce qu'on ramasse, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est une partie charnue où le champignon produit des spores. C'est-à-dire des fines particules, des petites cellules qui vont lui permettre de se reproduire. Ce que vous ne voyez pas, et qui est le champignon pour le spécialiste, pour le mycologue, comme on l'appelle, c'est un réseau de fins filaments qui se trouve dans le sol, qui se trouve caché dans le sol. Et ce réseau-là, il est là en permanence, et c'est lui qui, de temps à autre, nourrit la partie reproductrice. En fait, ce que vous voyez, c'est comme la pomme sur un pommier. Sauf que quand vous ramassez
c'est
une pomme...
C'est le fruit ?
Voilà, c'est la partie reproductrice qui contient l'équivalent des pépins. Sauf que quand vous ramassez une pomme, bah, vous ne pouvez pas louper le pommier. Quand vous ramassez un cèpe, vous ne voyez pas cet immense réseau souterrain de filaments microscopiques qu'on appelle le mycélium. Et ces filaments microscopiques, ils sont là tout le temps et ceux qui vont permettre à un moment de produire ce que vous voyez et que vous appelez le champignon.
Le mycélium, ce sont donc ces petits filaments, mais si on prend un microscope, on voit quoi ?
Alors si on prend un microscope, et il faut prendre un microscope parce que ces filaments, leur diamètre, c'est... Allez, 1/100 de millimètre, donc ça se voit à peine à l'œil nu, hein, ça se voit pas à l'œil nu. On voit effectivement des filaments qui se ramifient, qui en fait explorent le milieu. Ils se ramifient de temps à autre, ils se refusionnent pour faire un réseau et entretenir une continuité entre les différents filaments pour faire réellement un réseau qu'on appelle le mycélium. Et ça, vous le voyez pas, sauf Quand ces filaments sont assez serrés pour faire des tas visibles à l'œil nu, ça c'est ce qui se passe sur la croûte d'un camembert, par exemple, ou d'un Saint-Nectaire, hein. Là les filaments sont tellement accumulés que vous commencez à avoir un cotonnage. Mmh. Et puis aussi à un moment où ces filaments se réunissent, s'associent en une formation compacte. Ben, ça c'est ce que vous ramassez en automne. Le cèpe, le champignon de Paris, la partie que vous voyez à l'œil nu, elle est faite de filaments, mais qui sont tellement serrés, tellement agglomérés ensemble, que là, ça arrive dans le visible. Mais essentiellement, la vie du champignon, ça se passe de façon microscopique. C'est un microbe, c'est un micro-organisme.
Champignon, champignon de Paris, petit champignon, oui, nous te mangerons. Dans les flancs d'un vol au vent, ou en beignet croustillant, dans un poulet à la basque, ou une dorade monégasque, en cocotte ou bien au four, c'est toujours un vrai velours. Champignon de Paris, champignon de Paris.
Fraises ou en boîte, en accompagnement ou en légumes, les champignons de Paris sont rois. Les champignons, mille et une recettes toute saison.
Voilà, une publicité de 1968, je suis désolée Marc-André Sellos, quand on écoute ça une fois, on l'a dans la tête pour quelques jours.
Effectivement.
Alors qu'est-ce qu'il y a sous les champignons de Paris? Un réseau de filaments?
Bah, le champignoniste, celui qui cultive les champignons, en fait, il met en place de la paille ou du compost dans lequel il inocule les filaments en question qui sont pré-cultivés et disponibles dans le commerce. Donc en fait, au début, le champignoniste, il produit, il fait se développer le mycélium. Bon, il n'y a pas besoin de lumière, donc on voit ça dans des caves. En plus, c'est bien humide. Le mycélium va proliférer dans la matière morte. Et puis à un moment, on met une couche dite de gobtage, c'est-à-dire on met une espèce de couche de calcaire broyé. Et là, ça va induire la formation de la partie reproductrice du champignon. Et paf, paf, les petits champignons de Paris sortent et on va pouvoir les récolter.
Et les croquer.
Comme dit la publicité.
Il y a beaucoup de champignons, une variété incroyable. Il y en a partout, dans le monde entier, sur tous les sols.
Oui, bah, sur tous les sols, dans les organismes, il y en a qui parasitent les plantes. Il y en a un petit peu partout. Et d'ailleurs, la grande question est de savoir combien il y a d'espèces. La réponse, c'est qu'on ne sait pas. On en a décrit à peu près 140 000 espèces, c'est déjà pas mal. Mais quand on fait des estimations du nombre de champignons, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qu'on ne connaît pas, alors on fait ces estimations en disant, bah, tiens, bah, pour une espèce de plante, combien de champignons on trouve à un endroit donné? Et puis, on voit le rapport entre les deux. Ou alors on fait une grosse étude à un endroit donné, et on dit, bon, bah, dans cet endroit, j'en ai autant d'espèces, du coup, au niveau du globe, ça doit faire autant. Et bien, on obtient une fourchette qui va de 1 à 30 millions d'espèces. Et on n'est toujours pas sûr du nombre, mais vous voyez que comme on en connaît 140 000, ben, ça ne fait pas beaucoup.
Et ça fait du travail pour les mycologues.
Oui, ça en fait beaucoup. Pour le coup, si vous comptez qu'il y a en gros 6 millions d'espèces, comme on en décrit 1500 chaque année, ben, il nous faudra 4 à 5 000 ans pour arriver à faire le total. Par contre, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est la quantité en masse. Parce qu'ils ont beau être invisibles, il y a des filaments partout. Dans un hectare de forêt, vous avez l'équivalent d'une vingtaine de vaches en masse de champignons cachés dans les sols, cachés dans les plantes. Et on compte qu'au niveau du globe entier, la masse totale de champignons, c'est l'équivalent de 2000 milliards d'humains. Donc il y en a vraiment beaucoup. Vous ne voyez pas les parties, mais la somme des parties, comme il y en a partout, et ben c'est une masse énorme, que ce soit dans les sols, dans les organismes vivants.
Marc-André, quelle est la différence entre ces champignons dont vous parlez, le mycélium sous le sol de la forêt et les champignons qu'on peut avoir entre les doigts de pied?
Bah alors, c'est tous des champignons, et c'est ce que je vous disais, ils ne sont pas que dans les sols, et il y en a qui sont dans notre peau. Effectivement, le pied d'athlète, hein, c'est un champignon qui mange les protéines de la peau, ce qu'on appelle la kératine, et qui se développe là. Alors vous remarquerez que la plupart du temps, il n'est pas en forme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais c'est quand vous avez pris votre douche ou votre bain que là, effectivement, vous sentez que ça fait mal, ça gratte, et dès qu'il y a un petit peu d'eau, bah, il commence à se développer, à manger votre peau.
Est-ce que vous connaissez Roger Haim? Sûrement.
Bah, c'est une grande figure du Muséum d'Histoire Naturelle qu'il a présidé.
Écoutez ce qu'il disait à propos des champignons en 1956.
Mesdames, messieurs, lorsque j'eus la chance en 1934-35 d'entreprendre une mission à Madagascar, j'ai pu rapporter dans les régions primitives de l'Est un certain nombre d'éléments concernant les rapports qui peuvent exister entre la sorcellerie et les champignons, et notamment ceux qui concernent les rapprochements que les indigènes peuvent faire entre la foudre, le tonnerre, les précautions que l'on peut prendre contre l'un et l'autre, et d'autre part certains champignons. D'ailleurs, il s'agit là d'une notion que l'on retrouve dans l'Antiquité, puisque pour les Grecs, déjà, certains champignons, comme les terfèzes, qui sont des truffes particulières, sont produites directement par la foudre. Pline lui-même précise que c'est à la suite des éclairs et du tonnerre que certains champignons se produisent.
Marc-André Selosse, je vous vois faire des signes presque cabalistiques écoutant Roger Haim. Qu'est-ce que vous en pensez de cet extrait ?
Alors déjà, je pense que c'est un grand monsieur. Hein. C'était un grand mycologue du Muséum national d'histoire naturelle et puis un grand président de cette institution. Mais surtout, oui, ça nous renvoie à cette incompréhension de ce qu'on appelait le mycélium tout à l'heure. Nos anciens avaient pas de microscope et ils voyaient brutalement apparaître un bolet, une truffe, sans avoir les moyens de voir et sans penser à les chercher, évidemment, puisqu'ils ne connaissaient pas ce mycélium, ces filaments souterrains microscopiques. Et c'est ça, le truc, c'est que le champignon est essentiellement un microbe. Et du coup, quand certains champignons fabriquent des structures visibles, bah, ça a l'air de sortir de nulle part si on regarde pas, si on n'a pas aussi un microscope pour comprendre ça.
Mais il n'y a pas de rapport entre le champignon, en tout cas le fruit qui apparaît, et la foudre.
Absolument pas, c'était une explication qui était proposée, mais absolument pas. Par contre, il faut beaucoup d'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est à l'automne et au printemps qu'on a des champignons. Il faut beaucoup d'eau parce qu'il va falloir faire grossir cette structure charnue que vous allez éventuellement mettre dans votre panier. Donc il y a quand même un lien à la météo, mais c'est pas le tonnerre.
Dans un instant, vous nous raconterez comment les champignons se reproduisent. Et c'est assez fascinant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de formes de reproduction.
Oui.
Gonna pick something up to ease my mind. There's a possibility I'll drift away so unaware. The plane's been plucked out of the air and lose my sense on what's reality. But who knows what comes next?
C'était Dan Quayle, Stay in LA.
Les Saventuriers sur France Inter.
Le monde invisible qui nous permet de vivre, c'est la spécialité de Marc-André Sellos du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il connaît la sexualité débridée des champignons et raconte avec truculence des histoires de spécimens extravagants. Il en est un, par exemple, qui pèse des milliers de tonnes. Les champignons font partie de la vie de Marc-André Sellos depuis très longtemps.
Comment j'ai commencé avec les champignons? Ben, c'est mon prof de sciences nat. On a parlé de sciences naturelles à l'époque, en cinquième, qui a dit, bah, pour la semaine prochaine, allez ramasser des champignons, parce qu'on va parler des champignons. Et moi, j'ai trouvé ça trop génial d'aller en forêt et de trouver des nouvelles formes, d'essayer de trouver les espèces. Je suis resté scotché sur la consigne et voilà, j'ai 52 ans et je continue à chercher les champignons.
Et très vite, vous avez appartenu à la Société mycologique de France.
Oui, et puis j'ai aussi beaucoup circulé dans le salon du champignon qui a lieu tous les ans au muséum. Rapidement, pour moi, c'est vraiment devenu une passion et d'essayer de donner des noms aux champignons. Et puis maintenant, en réalité, ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font dans la nature, leur écologie, leur impact sur les milieux naturels.
Et puis quand vous étiez petit, j'imagine que vous étiez fasciné par la diversité, la beauté, les couleurs.
Oui, au début, c'était vraiment un jeu de recherche. Puis après, c'est devenu un jeu pour donner des noms, voire même, de façon un petit peu maligne, d'aller coincer des pharmaciens en leur demandant « Et ça, vous savez, qu'est-ce que c'est ?» Moi, je savais ce que c'était, et donc souvent, effectivement, eux, c'était des trucs qui se mangeaient pas, donc ils avaient pas forcément de connaissance de ça. Et puis, petit à petit, c'est vraiment devenu un objet, lorsque j'ai dans mes études et à partir de ma thèse, vraiment un objet de recherche, mais aussi d'enseignement. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour comprendre le monde.
Alors, vous nous avez promis de nous parler de la reproduction. Comment se reproduisent les champignons? Il y a des phénomènes qui peuvent parfois être spectaculaires.
Ah oui, alors il y a des phénomènes intimes et discrets. Tout commence par un accouplement. Il y a un moment où deux filaments de deux champignons différents se retrouvent et font des choses que la morale des champignons approuve, d'ailleurs.
Oui. Mais c'est sexué?
Ah, c'est du sexe, oui. Et ça, ils le font souvent. Parce que pour se retrouver, quand vous êtes en train de pousser dans le sol, c'est pas évident, en émettant ce qu'on appelle les phéromones. C'est des petites molécules qui diffusent dans le sol et qui indiquent où est la présence de l'autre. Et finalement, ils vont grandir l'un vers l'autre. Et ça, c'est le premier acte. Un acte, j'allais dire, dans l'obscurité, pas très visible. Mm-hmm. C'est la sexualité qui réunit deux champignons. Et puis après...
Mais j'ai une question avant le après. Est-ce que deux champignons de deux espèces différentes peuvent se rencontrer?
Bah, c'est exactement comme chez les plantes ou chez les animaux. Ça arrive, ça fait des hybrides. Mais ces hybrides fonctionnent parfois mal. Et puis d'autres fois, ils fonctionnent tellement bien que ça fait une nouvelle espèce. Donc il arrive effectivement qu'il y ait des accidents. Hein, et qu'il y ait des hybridations qui se produisent. Mais la plupart du temps, ces signaux en fait, sont reconnus par des individus de la même espèce, et donc en général, ça assure qu'on va se reproduire entre soi.
Alors on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, et après?
Après, il y a un autre stade qui est le stade de la dispersion, hein, qui est le stade d'aller fonder des individus ailleurs. Et ça, les champignons, ils le font de façon parfois visible, pour le coup, en automne ou au printemps, hein, en produisant des spores, c'est-à-dire des petites cellules qui sont extrêmement résistantes, qui vont résister au trajet, qui vont même pouvoir attendre un certain temps avant de germer, et puis qui, à un moment, justement, dans des conditions favorables, vont germer et redonner le premier filament qui, après sa croissance, sa ramification, va redonner un mycélium. Ces petites cellules-là, ce sont des spores. Et vous savez quoi?
Non.
Dans cette pièce, il y en a des millions. Il faut voir que les champignons produisent énormément de spores parce que ces petites cellules, beaucoup vont être accidentées, beaucoup vont atterrir, bah tiens, par exemple, sur cette table où elles n'ont aucune chance de germer. Donc il faut compenser tous ces accidents possibles en produisant énormément. Et en fait, ça fait des champignons les premiers pollueurs de l'atmosphère. 45% des particules qu'il y a dans l'atmosphère, c'est des spores de champignons qui sont en train de rôder là dans l'espoir de germer un jour. Espoir que beaucoup, d'ailleurs, ne parviendront pas à remplir.
Ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez comment ces spores sont éjectés.
Ah oui, parce que justement, tout ce que peut le champignon, pour que ça commence bien, c'est d'envoyer ces spores dans l'air. Alors, il y a plein de dispositifs qui sont des dispositifs microscopiques. Mais, par exemple, quand vous regardez les lames de votre champignon de Paris ou les tubes d'un bolet, les spores sont produits à la surface. Et il faut surtout qu'elles se prennent pas les pieds dans le tapis au décollage. Mmh. Donc il faut vraiment qu'elles soient éjectées pour tomber entre les deux lames ou pour tomber dans le trou, hein, dans la lumière du tube qu'il y a sous un bolet. Et là, il y a des dispositifs d'éjection qui sont assez incroyables. avec, bon, je vous raconte pas le détail des opérations, mais en gros, c'est des relaxations de tension qui s'accumulent, et à un moment, quand la spore se sépare de ce qui la nourrit, de son cordon ombilical en quelque sorte, cette petite cellule va subir une accélération drastique de l'ordre de 10 000 G. Alors 10 000 G, c'est simple, hein. Vous, on vous met à 10 000 G, vous êtes réduit en bouillie tellement l'accélération est énorme. Les montagnes russes, c'est 7 G. Un missile, il décolle à 100 G. Donc c'est des accélérations infernales qui vont propulser la spore dans l'air. Et après, eh bien, ces spores, elles rôdent dans l'air, c'est pour ça que je vous disais qu'il y en a plein autour de nous. Mais il y a un flux incroyable, il faut imaginer que chaque mètre carré de votre environnement, je ne sais pas là, si nos auditeurs sont dans un jardin, dans une forêt, chaque mètre carré d'environnement naturel éjecte 200 spores par seconde et par mètre carré.
C'est effectivement énorme.
Alors c'est énorme, beaucoup n'atterriront jamais à l'endroit où il faut, et ça se fait soit dans ces structures massives qu'on voit en automne, soit ça se fait de façon diffuse, parce qu'il y a aussi des champignons qui produisent des spores dans des structures invisibles à l'œil nu, et donc, même sans qu'on voit grand-chose, il y a ce flux de spores qui sortent et qui vont rôder dans l'atmosphère.
Donc je résume, soit on se rencontre sous la Terre, soit les spores se promènent dans l'atmosphère et essaient de trouver un endroit propice. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de reproduction ?
Ah bah alors justement, les champignons, ils peuvent grandir. Ils peuvent grandir dans le sol, ils peuvent grandir dans notre peau. On parlait tout à l'heure des champignons qui parasitent la peau, hein, qui forment les pieds d'athlètes sur les pieds. Bon, alors, l'autre façon, c'est simplement de grandir. Et finalement, les filaments peuvent grandir, se ramifier, perdre les liens entre eux. Et vous pouvez avoir comme ça, simplement par croissance, de la multiplication, exactement comme quand on bouture un rhizome, si vous voulez, de plantes. Hein. Vous pouvez avoir la multiplication d'un champignon dans le sol, effectivement.
Et vous allez donc nous dire quel est le plus vieux champignon et le plus gros ?
Ah, bah oui, parce que à force de grandir, vos champignons finissent, dans certains cas, s'ils survivent, par occuper des volumes énormes. Alors, par exemple, quand vous avez un rond de sorcière dans un pré, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces champignons qui apparaissent en rond, là.
Oui.
Ça veut dire qu'en fait, vous avez un mycélium qui est en train de grandir dans le sol. Il grandit vers l'extérieur. Au milieu, il meurt parce qu'il n'a plus rien à manger. Il a tout mangé. Et donc, il occupe une espèce de cercle. Et tous les automnes, il fait des spores sur ce cercle. Donc, vous ramassez vos petits mousserons ou vos rosées sur un cercle. Mais ce cercle, il grandit d'année en année. Et avec sa vitesse de croissance, vous pouvez savoir son âge. Si vous avez un rond de sorcière de 4-5 mètres de diamètre, il a déjà une dizaine d'années. On connaît en Suisse un rond de sorcière, enfin c'est près de Belfort très exactement.
C'est pas en Suisse ça.
Bah non, pas du tout, mais pour le coup, il fait 300 mètres de diamètre. Et vu sa vitesse de croissance, bah, ça fait 700 ans qu'il est là. Ailleurs encore, on a dans des forêts des mycéliums qui sont encore plus énormes. Alors là, il faut aller dans des forêts qui n'ont pas été perturbées par l'homme. On va en Amérique du Nord, par exemple, et vous avez dans l'Oregon une forêt où il y a un champignon qui occupe à peu près un millier d'hectares. C'est un champignon qui mange du bois mort. C'est une armillaire, pour ceux qui connaissent un peu les champignons, parce qu'on en a chez nous. Alors dans cette forêt où elle n'a pas été perturbée, parce qu'il n'y a pas de récolte de bois, il y a une grande continuité temporelle, ce truc s'est développé probablement entre 5 et 8 000 ans durant. Et aujourd'hui, son volume estimé de tous ces filaments, là, quand on essaie d'estimer quel volume ça fait, bah ça fait entre 10 000 et 40 000 tonnes de champignons. Le même individu.
Le même individu.
Là, vous réalisez que les plus gros organismes sur Terre ne sont pas les baleines, qui sont scotchées à une centaine, 150 tonnes, je crois, maximum. Hein. Ne sont pas les arbres, même les plus grands arbres. C'est un champignon, une armillaire, qui est le plus gros organisme connu. Alors même que dans toutes ses parties, il est à peine visible.
Ça, c'est assez fascinant.
C'est un super paradoxe.
Et dans un instant, vous nous parlerez d'écologie et du rapport entre les champignons et la végétation, parce que les arbres ont besoin des champignons, les champignons ont besoin des arbres, etc., etc.
Tout à fait.
D'une coulemelle, j'ai fait une ombrelle, et d'un champignon tout rond, j'ai fait un chapeau melon. J'ai mis ma collerette, mon habit de fête, pour aller danser un peu chez le roi des elfes bleus. Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons.
Madame Morille, qui est si gentille, pense qu'il est de bon ton d'aimer un pied de mouton. Mais son mari grogne, grogne, se renfrogne, car il est, ça c'est trop fort, une trompette de la mort. Champignon, marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons. La belle orange, j'ai compté mes songes. Elle m'a dit que bientôt j'habiterai un château. Grand merci la belle pour cette nouvelle. Je m'en vais danser en rond avec 30 mousserons. Champignon, marron, mon champignon, si bon mon champignon. Nous danserons sous les liserons, sous les liserons.
Bal des champignons, vous avez sûrement reconnu Anne Sylvestre.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
8 plantes sur 10 ne pourraient pas vivre sans les champignons qui s'accrochent à leurs racines et les fournissent en sels minéraux. En échange, les plantes donnent du sucre aux champignons. On ne s'en doute pas, mais sous nos pieds, c'est le monde du troc. Les champignons sont indissociables des plantes et ils dopent la planète.
Oui, parce que jusqu'ici, on a surtout dit qu'il y avait beaucoup d'espèces, on les a un peu décrites, mais ces espèces, elles sont présentes dans les milieux naturels et elles ont plein de rôles. Et un rôle essentiel, par exemple, c'est le lien aux plantes. Ce lien aux plantes, c'est quelque chose qui a été trouvé à la fin du 19e siècle, quand on a justement cherché à comprendre pourquoi les truffes poussaient toujours sous les chênes, ou en tout cas sous des arbres.
Oui.
Parce que ça pousse aussi sous des hêtres, sous des pins des fois, mais ça pousse toujours sous des arbres. Et en fait, on s'est aperçu que ces fameux filaments microscopiques qui forment le mycélium étaient associés aux racines des arbres. Et par la suite, on a compris qu'en fait, 9 dixièmes des plantes, sur leurs racines, il y a des champignons, mais pas des champignons qui les rendent malades, des champignons qui s'installent là, qui vivent en partie là et en partie dans le sol, et qui opèrent un échange à bénéfice réciproque.
Oui.
Et cet échange à bénéfice réciproque se fait dans une structure qui n'est ni de la racine ni du champignon, mais un mélange des deux, ce qu'on appelle une mycorhize. Alors,
qu'est-ce qui se passe?
Ah ben alors justement, d'abord le champignon, c'est là qu'il va avoir des sucres qui vont lui permettre de vivre, parce qu'il est comme vous et moi, il a besoin de trouver des aliments.
Donc les végétaux lui donnent du sucre?
Oui, pour le champignon, c'est un biberon, la mycorhize, et il reçoit du sucre par ce biberon. Mais les plantes, elles, et ça on a mis du temps à le découvrir, parce que comme il y a beaucoup de ces champignons dans les sols, l'association se fait tout le temps. Mais si jamais on met les plantes dans des sols où il n'y a pas de champignons, parce qu'on les a stérilisés, vous allez me dire naïvement, oh ben c'est bien parce qu'il n'y aura pas de champignons pathogènes. Oui, mais il n'y aura pas non plus les champignons qui font les mycorhizes. Et là, on s'aperçoit que les plantes ne poussent pas. Ou poussent très mal, parce qu'en fait, les plantes, ça fait des millions d'années qu'elles sont associées à des champignons qui les aident à aller chercher l'eau et les sels minéraux dans le sol.
Et là, on est vraiment dans le thème de l'émission, l'intelligence du vivant.
Ben ça, c'est l'intelligence de l'association, l'intelligence de l'entraide, l'intelligence d'être deux. En fait, les plantes terrestres ont une contrepartie souterraine invisible, elles sont associées à des champignons sans lesquels elles ne peuvent pas exploiter le sol.
J'ai compris que les plantes donnaient du sucre aux champignons, mais les champignons donnent des choses aux plantes.
Oui, oui, en fait, ils vont chercher, d'abord en partie pour eux, dans le sol, du potassium, du phosphore, de l'azote, tout un tas de ressources, qu'on appelle les sels minéraux, et puis de l'eau aussi. Une partie de ce qu'ils ont prélevé, ils vont le donner à la plante. Et les plantes, en fait, sans ces champignons, sont assez peu efficaces pour arriver à faire ça.
Vous nous avez dit que les truffes poussaient au pied des chênes. Est-ce que les champignons sont associés à certains arbres? Est-ce que certains champignons sont associés à certaines espèces végétales?
Alors ça, c'est effectivement une question intéressante. Bon, les ramasseurs de champignons savent que le lactaire délicieux, on le trouve sous les pins. Donc il y a des champignons qui sont spécifiques d'une espèce. D'un autre côté, il y a aussi des champignons qui sont généralistes, qui vont un peu partout. Le cèpe, par exemple, vous le trouvez sous n'importe quelle espèce. Et alors ça, c'est tellement vrai que parfois, un même champignon peut relier plusieurs espèces différentes. C'est le mycélium s'associe aux racines de plusieurs plantes d'espèces différentes. Et mon équipe, par exemple, au muséum, travaille sur certaines plantes qui, grâce à ce réseau, récupère de la nourriture sur les plantes voisines, notamment certaines orchidées forestières qui utilisent ces champignons comme des tuyaux pour ou des pailles pour aspirer le sucre des plantes voisines.
Et avant d'arriver dans votre laboratoire, il y en a d'autres qui ont réfléchi sur les champignons, et notamment Pline l'Ancien qui a écrit des choses dans son Histoire naturelle à propos des champignons, et vous avez accepté de nous lire un extrait de l'Histoire naturelle de Pline.
Oui, alors dans cet extrait, il est joli cet extrait. Les champignons sont d'une nature humide, nous dit-il. Il y en a beaucoup d'espèces, toutes produites par l'humeur pituiteuse des arbres. Quelques-uns ont distingué les champignons suivant les arbres où ils se forment, comme le figuier, la férule, les arbres à gomme. Il y a aussi ceux du hêtre, du rouvre et du cyprès. Il l'avait déjà remarqué, sans bien comprendre quel était le lien, qu'il y a effectivement des champignons qui sont liés à certaines plantes. Deux millénaires plus tard, on a compris que la mycorhize, c'était une des raisons pour lesquelles certains champignons poussent sous certains arbres. Et ça, vous savez, les ramasseurs de champignons, ils sont déjà au courant.
Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de cèpe, de bolet, de truffe ou de girole s'il n'y avait pas d'arbres.
Exactement, et c'est ce qui fait le drame de tous ces champignons qui sont par ailleurs délicieux, la truffe, le cèpe, la girole, le pied de mouton, les trompettes de la mort. Tous ces champignons qui sont délicieux, on ne sait pas les cultiver, parce qu'en fait il leur faut des racines de plantes. Donc la seule chose c'est d'aller les chercher en forêt, là où il y a les arbres auxquels ils sont associés. Et du coup, ça fait que le prix en est légèrement plus élevé que des champignons qu'on sait cultiver sur de la matière organique morte, par exemple.
Où est-ce qu'on en est de la culture de la truffe ?
Alors ça, c'est aussi une des choses qui intéresse beaucoup mon équipe. On n'est pas très loin. Au début du XXe siècle, on produisait 1000 tonnes de truffes par an en France. Aujourd'hui, on est plutôt à 10-50 tonnes.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
On ne sait pas trop. On pense que le paysage a changé, on pense que les milieux agricoles ou les endroits où on laissait les animaux pâturer et tout ont disparu, et que les types de sols et les types de forêts où se développe bien la truffe ont disparu. Et une des choses que mon équipe essaie de faire, c'est d'essayer de comprendre en fait quels sont au fond les besoins de la truffe pour essayer de donner des conseils ou de trouver des pratiques pour que les truffières produisent plus demain. Et notamment, on a découvert une chose assez intéressante, c'est que la truffe est bien sûr associée aux racines des arbres, mais elle pénètre aussi dans les racines des petites plantes herbacées qu'il y a autour. Et là, on voit tout de suite que dans certaines pratiques de production de truffes où on désherbe bien, on est peut-être en train de retirer un des éléments dont elles ont besoin, les truffes, pour se développer correctement.
Et voilà pourquoi on en produit beaucoup moins qu'avant. Quand on lit des vieux livres de cuisine, on voit qu'autrefois, on pouvait farcir des dindes ou des poulets avec 2 kilos de truffes.
Ouais, alors ça c'est aussi parce qu'on la cuisait et il ne faut jamais cuire la truffe parce que l'odeur se vaporise. Vous n'avez pas besoin, si vous avez mangé de la truffe, d'y passer des milliers d'euros. Avec 10 grammes de truffe, c'est-à-dire 10 euros, vous pouvez réunir 4 personnes autour d'une table, vous faites des petites lamelles de truffe pour l'apéro sur du pain, ensuite vous faites des pâtes où vous râpez la truffe, vous râpez votre truffe sur une salade, avec vos 10 grammes vous allez rendre heureux 4 personnes. C'est pas cher la truffe, si on l'utilise comme condiment et si on la chauffe pas pour bien garder tout le goût.
Et je comprends maintenant pourquoi vous avez choisi ce sujet, car vous êtes aussi un fin gourmet.
Il y a quelques morceaux de truffe qui finissent dans l'assiette et pas dans les tubes à essai au labo, ça c'est sûr.
Est-ce que c'est nourrissant un champignon ?
Alors justement, pas trop. C'est beaucoup de fibres. Alors ça, c'est bon pour l'organisme. Ça nous aide à nourrir notre microbiote intestinal. C'est vraiment important de manger des fibres. Par contre, la valeur alimentaire n'est pas élevée. C'est assez riche en protéines, mais bon, c'est pas très très riche en sucre, donc la valeur énergétique n'est pas très élevée. Et au total, c'est tout finalement aussi riche qu'un aliment végétal. C'est moins riche qu'une viande. Par contre, ça peut être intéressant au goût, et il faut quand même se représenter les choses. Manger, c'est pas juste une histoire de calories, c'est une histoire de plaisir. Et il y a vraiment des plaisirs gastronomiques gustatifs qui sont liés à la truffe.
Alors écologie toujours, Marc-André Sellos, les champignons recyclent beaucoup de choses, et notamment le bois mort.
Oui, parce qu'en fait, ils peuvent aussi, les champignons, manger de la matière organique qui est morte. Et c'est eux qui sont les grands agents recycleurs dans les écosystèmes, aux côtés des bactéries, il est vrai, notamment dans les sols qui vont digérer toute la matière végétale qui tombe sur le sol. Il y a notamment une matière qu'ils sont les seuls à traiter. Et cette matière-là, ils en produisent 900 milliards de tonnes chaque année sur le globe. Donc autant dire que, effectivement, c'est quelque chose de quantitativement important, c'est la lignine. Qu'est-ce que c'est que la lignine ? c'est ce qui fait que le bois est dur.
Je suis pas sûr que ce soit du bois, ça.
Oui, enfin, c'est dur, parce que je viens de me faire mal aux doigts, là, en tapant dessus. En tout cas, dans le bois, vous avez 40 à 50% de lignine, qui est quelque chose qui est très dur, mécaniquement, mais aussi très dur à décomposer. Et seuls les champignons sont capables de décomposer ça. C'est les seuls qui soient capables d'attaquer, grâce à des radicaux libres, la lignine. Donc, ce sont des recycleurs, et ils vont, aux côtés des bactéries pour beaucoup de choses, et pour la lignine, là, ce sont les seuls à opérer ça, ils vont attaquer ces substances pour manger. Et puis, bah, comme quand on mange, on produit des déchets, et en réalité, quand ils produisent des déchets, ils vont libérer l'azote, le phosphate, le soufre. Ils vont aussi produire du CO2, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont transformer cette matière organique en produit brut que pourront réutiliser les plantes et leurs alliés mycorhiziens pour refaire de la matière organique le lendemain. En fait, ce sont des recycleurs.
Alors voilà un petit texte de Pierre Desproges, écrit en 1990. Dans notre édition d'hier, une légère erreur technique nous a fait imprimer les noms de champignons vénéneux sous les photos des champignons comestibles et vice-versa. Nos lecteurs survivants auront rectifié d'eux-mêmes. Dans un instant, Marc-André Sellos, nous parlerons des relations entre nous, les hommes et les champignons, car les champignons peuvent faire du mal, mais aussi beaucoup de bien.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi ça. Place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence, ainsi certains.
Une flamme en nos cœurs, mais nous ne
s'en est allé, et comme le chien hurlant à la mort, pleurent les hommes et leur destinée.
On écoutait Rosemary Stanley sur la place.
Les Saventuriers sur France Inter.
On parle beaucoup du microbiote intestinal en ce moment. Le microbiote, ce sont ces millions de bactéries qui tapissent les parois de nos intestins. Elles sont essentielles à notre santé, mais les bactéries ne sont pas que dans nos intestins, elles sont partout. Sans ces microbes, nous ne savons pas respirer et les levures nous permettent de manger, de nous soigner. Elles aussi font partie du royaume des champignons. On retrouve Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle.
L'homme a de plein de façons des liens aux champignons. Et c'est pas juste le fait d'aller en ramasser en automne ou d'en manger de temps à autre dans un lapin chasseur. C'est que c'est pour nous des outils pour traiter les aliments, par exemple.
Le pain, la bière.
Le pain, la bière, le vin, tout ça s'est fermenté avec des levures, effectivement. Alors, on a plein de productions d'aliments. Pensez au fromage aussi. Hein. Alors, on voit très bien sur le fromage, les champignons, ils sont dehors et ils sont en train de digérer le lait qui a coagulé, hein, ce qu'on appelle le caillé, et qui se liquéfie petit à petit sous l'effet des enzymes du champignon. Et finalement, vous obtenez quelque chose qui est beaucoup plus goûteux que n'était le caillé au départ, mais surtout qui est protégé par un emballage de champignons. Et donc vous voyez que là, c'est la préparation de l'aliment, mais c'est aussi la protection contre toutes les contaminations. Un fromage, c'est un truc emballé de champignons qui le protège.
Marc-André Sellos, avant de continuer, j'ai envie de vous faire écouter une interview réalisée en 1969, celle d'Henri Romagnesi. Vous savez qui est Henri Romagnesi?
Ah oui, il était à la Société Mycologique de France quand, tout gamin, j'y allais et j'ai eu ses leçons. C'était un des plus grands mycologues de l'époque.
Bah, tout d'abord, les champignons ont un intérêt alimentaire. C'est même comme ça que beaucoup de gens viennent à étudier les champignons.
Oui, c'est vrai.
N'est-ce pas? On passe de la casserole au microscope. Eh bien, ce n'est pas que les champignons soient tellement nourrissants. Pour mériter le nom de viande végétale qu'on leur a quelquefois autrefois donné. En effet, un champignon, sur le frais, contient 82 à 92% d'eau, c'est-à-dire une proportion très comparable aux légumes. Et puis il y a eu dans le passé quelques usages artisanaux. L'amadou, qui est tiré d'un champignon. Mais vous savez que l'amadou n'a plus grand rôle dans la vie moderne. Mais aujourd'hui, grâce aux antibiotiques d'origine fongique, la science a fait faire à la médecine un pas si important que la balance commence à pencher en leur faveur. Et le mouvement peut s'accentuer si, comme certains l'entrevoient, on peut un jour utiliser les levures, non plus indirectement, mais directement, comme nourriture de l'homme, vu leur teneur élevée en protéines et autres substances alimentaires. Si un jour les champignons pouvaient contribuer à résoudre le terrible problème de la faim dans le monde, ils auraient alors bien mérité de notre reconnaissance.
C'était en 1969. Est-ce que 51 ans plus tard, on a avancé depuis cette époque?
Oui, déjà à cette époque-là, il y avait une autre grande utilisation des champignons qui était la santé. L'homme des glaces, Ötzi, qui a été retrouvé à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, on ne sait pas très bien de quel côté d'ailleurs, il avait dans sa besace de l'amadou, comme mentionné, qui était un matériau. Et puis il avait aussi des
Il avait de l'amadou parce
de
qu'on faisait du feu avec.
Oui, mais il avait aussi des morceaux de champignons sur une espèce de guirlande, de polypore du bouleau, dont on pense que ça avait un usage médicinal. Et ça, c'est un truc important, c'est que les champignons ont très souvent été utilisés comme vermifuge ou pour soigner quand on était malade. Et la dernière utilisation en date, si j'ose dire, qui est déjà à l'époque réalisée, c'est la pénicilline. C'est beaucoup d'antibiotiques qui sont en fait des produits de champignons et qui sont des produits que les champignons utilisent pour se débarrasser des bactéries qui pourraient venir finalement rentrer en compétition avec eux pour leurs aliments, qui pourraient venir les parasiter ou manger la même chose qu'eux. Et donc nous avons réutilisé avec les antibiotiques les stratégies de lutte des champignons contre les bactéries. Nous les avons réutilisées à notre avantage. La pénicilline, c'est quelque chose qui est extrait du pénicillium. Et les pénicilliums, vous les connaissez, parce que c'est la moisissure qui rend bleu le roquefort.
C'est ça. C'est ce qu'on trouve sur les fromages. On utilise aussi les champignons pour produire des médicaments.
Ah, on les utilise effectivement pour produire des médicaments parce qu'ils permettent de réaliser des synthèses de molécules qu'on ne sait pas faire chimiquement. Pendant un temps, par exemple, le Taxol a été fabriqué avec des champignons. Le Taxol, c'est un anticancéreux. Bon, maintenant, on sait en faire la synthèse chimique. Autre exemple, la vanille. La vanilline est largement de synthèse, hein, et il y a des synthèses chimiques, mais il y a aussi des synthèses où on donne certaines molécules à des champignons et ils transforment ça en vanilline. C'est la fameuse vanilline dite naturelle, alors oui. Désolé, c'est un piège, qui est en fait une vanilline de conversion liée à des champignons. Donc ce sont des usines à biosynthèse, et leur savoir-faire chimique est très souvent mis à profit dans l'industrie pour faire des molécules utiles pour le goût, la couleur ou la santé.
Marc-André Sellos, les champignons, c'est formidable, les champignons, c'est extra, mais pas toujours. Quand les champignons s'attaquent aux cultures, quand les champignons s'attaquent aux arbres, ça fait mal.
Alors ça, c'est un vrai problème, effectivement. Hein. On compte que une bonne moitié des pertes de récoltes mondiales sont liées aux champignons. Et ça, c'est vraiment très très délicat parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes. On s'aperçoit que les fongicides, c'est-à-dire les molécules qu'on applique sur les plantes pour les protéger des champignons quand elles sont malades, sont en fait pas très très bons pour l'homme. Il y a un gros débat en ce moment autour des SDHI, hein, les inhibiteurs des succinates déshydrogénases, qui sont des molécules utilisées en agriculture pour protéger les plantes des champignons, mais qui sont pas très très bonnes en fait pour la santé ni des agriculteurs ni des consommateurs. Et on pense que demain nos plus gros problèmes seront les problèmes liés aux champignons, puisque comme on le disait au début de l'émission, ce qui affecte les champignons est susceptible de nous affecter car nous sommes très proches d'eux dans l'évolution.
Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé. C'est vrai que les champignons peuvent nous nourrir, mais ils peuvent aussi nous empoisonner.
Aujourd'hui, précisément, ils iront par milliers, le panier sous le bras, à cette chasse bien pacifique. Mais attention, et nous le disons chaque année, la mort se cache parfois sous les aspects les plus charmants. Une seule amanite phalloïde est capable de tuer une famille entière.
Et ça fait froid dans le dos, c'était un extrait du journal de France Inter en 1964. Alors, ça vient d'où ce poison des champignons?
Alors disons-le, l'amanite phalloïde tue une ou deux personnes par an en France. Parce que, et là il faut vraiment être sérieux, il y a des gens qui mangent des champignons qu'ils connaissent pas bien. Et manger des champignons, il faut vraiment connaître les espèces ou alors avoir les recommandations d'un pharmacien ou de quelqu'un qui les connaît bien, mais on ne peut pas s'intituler ramasseur de champignons. Ça, il faut vraiment le rappeler, parce que ça tue des gens, et puis il y en a qui ne meurent pas, mais dont les reins et le foie sont abîmés au point qu'ils sont en attente de greffe. Donc tous les ans, il y a des accidents avec ça, et on a du mal à comprendre pourquoi les gens ont la bêtise finalement. Alors, de tomber dans un piège que leur tendent les champignons, en fait, les champignons contiennent des toxines pour ne pas être mangés. C'est comme les plantes. Ils contiennent des toxines qui limitent le risque qu'ils soient dévorés par d'autres organismes. C'est une sorte d'intelligence, là encore, des champignons, d'avoir accumulé des composés qui font qu'ils ne sont pas bons à manger pour ceux qui aimeraient justement les dévorer.
Donc on y fait attention. On peut aussi parler des champignons hallucinogènes. Alors on a écouté tout à l'heure Roger Haim en 1956. C'était un grand mycologue lui aussi, qui a dirigé, vous le disiez, le Muséum National d'Histoire Naturelle. Lui, il avait même testé des champignons hallucinogènes.
Toute une série de champignons que l'on rencontre ça et là dans le monde paraissent avoir des propriétés quelque peu analogues à celles du champignon que vous connaissez bien sous le nom d'Amanita tumouche, l'Amanita muscaria, et qui renferme notamment de la muscarine et qui, consommé dans certaines conditions, le poison est concentré surtout sur la cuticule, provoque une sorte de délire hilarant, dont j'ai d'ailleurs moi-même éprouvé la réalité. Des relations concernant un culte que les conquérants espagnols, au milieu du XVIe, ont découvert et dont l'objet essentiel est un champignon auquel était attribué, par celui qui le consommait, un pouvoir d'extraordinaire faculté.
Marc-André Sellos, vous avez testé, vous aussi, les champignons hallucinogènes ?
Non, et je le recommande pas parce qu'il y a aussi des composés qui ne sont pas hallucinogènes mais qui détruisent les cellules nerveuses. Et donc c'est des pratiques qu'on recommande pas pour la santé. Il y a d'autres façons de se faire plaisir, mais c'est vrai que c'est associé à beaucoup de pratiques religieuses. Les chamans par exemple, effectivement, pratiquent l'hallucination avec des amanites tumouches. Et Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, avait même produit une théorie, celle du panfongisme, qui consistait à imaginer que le sentiment religieux et le sentiment de la divinité, finalement, serait venu à l'homme au travers d'expériences avec des champignons hallucinogènes. Je ne sais pas ce que vaut cette théorie, mais ce qui est clair, c'est que beaucoup de champignons hallucinogènes se retrouvent dans des pratiques religieuses et réservées à ceux qui vont finalement lire l'avenir ou avoir des révélations qu'ils vont livrer ensuite aux autres.
Moi, j'aime bien cette idée de la relation entre la nature et l'homme.
Oui. Effectivement, les champignons nous relient à la nature, que ce soit des champignons qui nous parasitent, que ce soit des champignons qui inspirent les élites religieuses dans certaines ethnies, que ce soit des champignons que nous mangeons ou qui font fermenter nos aliments et leur donnent ce goût que nous apprécions, ou qui préparent l'alcool de nos vins. Finalement, nous avons un lien extrêmement étroit aux champignons et c'est un truc qu'il faut réaliser, nous avons plein de liens avec la nature. En citadins, nous les avons parfois perdus de vue. Mais regardez bien votre assiette demain, vous verrez, les champignons sont là. Hein.
Merci à Stéphanie Texier qui réalise cette émission avec Emma Ferré et Fanny Leroy. Merci à Violaine Ballet. Merci à Pierre-Yves de Rolin à la technique. Cette émission, vous pouvez la réécouter autant que vous le voulez ou la podcaster sur le site de France Inter. N'oubliez pas non plus la page des Saventuriers qui vous permettra d'aller plus loin. Samedi prochain, nous parlerons des poulpes et des seiches. Ce sont des animaux vraiment fascinants. En attendant, très bonne semaine à tous. À l'écoute de France Inter.
Thank you.